Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال العين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 17 Aban 1402 du calendrier iranien, 8 novembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La promulgation du volet maritime des projets de développement national iranien sur l'ordre du leader de la révolution islamique. Le soutien des États-Unis et de l'Occident à Tel Aviv complique la situation dans la région, a déclaré le ministre iranien de la Défense. Convoi humanitaire du CICR visé à Gaza. La Croix-Rouge dénonce un échec moral. Attaque contre les forces américaines en Irak et en Syrie. L'Iran rejette les accusations de Washington. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que la récente opération palestinienne dans les territoires occupés a révélé le faux pouvoir du régime infanticide israélien. Le soutien des États-Unis et de l'Occident à Tel Aviv a compliqué la situation dans la région, a-t-il averti. Le général Ashtiani a déclaré que les opérations palestiniennes, y compris la tempête d'Al-Aqsa, reposaient sur les capacités des combattants de la résistance et sur leur esprit de résiliation après plusieurs décennies de sanctions et de harcèlement. Le ministre iranien de la Défense a déclaré que l'entité occupante n'atteindra aucun de ses objectifs à Gaza et que le soutien des États-Unis et de l'Occident aux crimes du régime sioniste a impacté la situation sécuritaire dans la région. Il a appelé les gouvernements musulmans à prendre des mesures pratiques contre Israël, telles que l'imposition d'un embargo et de sanctions économiques, l'arrêt des exportations d'énergie et de carburant vers la Palestine occupée. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a appelé à mettre fin aux souffrances des Palestiniens, dénonçant un échec moral dans la bande de Gaza assiégée. La présidente de la CICR a déclaré mardi dans un communiqué que les civils de Gaza sont contraints d'endurer d'énormes souffrances et pertes. Ce communiqué intervient suite à une attaque israélienne contre son convoi de fournitures médicales destinées à des établissements de santé de Gaza. Il y a exprimé son inquiétude quant à la destruction massive des infrastructures civiles et a appelé à un accès humanitaire sûr et durable à Gaza, au rétablissement des services essentiels tels que les soins de santé, l'eau et l'électricité. Des bombardements massifs détruisent les infrastructures civiles à travers Gaza, semant d'autres difficultés pour les générations à venir, a-t-elle indiqué. Dans sa lettre au Conseil de sécurité, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies, a rejeté en bloc toutes les accusations des États-Unis, les qualifiant d'infondées. La République islamique d'Iran n'est jamais intervenue dans aucune action ou attaque contre les forces militaires américaines en Syrie et en Irak, a-t-il insisté. Toutes les accusations formulées dans la lettre sont catégoriquement sans fondement. La République islamique d'Iran n'est jamais intervenue dans aucune action ou attaques contre les forces militaires américaines en Syrie et en Irak. La tentative des États-Unis d'invoquer le droit de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour légitimer leurs actions militaires illégales contre les civils et les infrastructures vitales en Syrie manque de base légale et de crédibilité. L'Union internationale des savants musulmans, une institution juridique universitaire indépendante, a tenu une conférence de presse en présence de nombreux universitaires pour réciter une fatwa sur un devoir des gouvernements musulmans face à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Une conférence de presse a été convoquée au siège de l'Union internationale des savants musulmans à Doha, au Qatar, le mardi 31 octobre 2023. Sur fond de la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, le comité Ijtihad et Fatwa a émis une fatwa importante, délivrant un message fort sur le devoir des gouvernements musulmans de contrer cette agression israélienne. Et enfin, alors que la guerre israélienne contre Gaza fait rage et a déjà coûté la vie à des milliers de Palestiniens, les États-Unis ne tracent toujours pas de ligne rouge pour Israël. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, avait le 28 octobre dernier, lors d'un point de presse, déclaré que la Maison-Blanche ne trace pas de ligne rouge pour Israël. Ce mardi, lors d'un nouveau point de presse, John Kirby a déclaré « C'est toujours le cas ». Il est également vrai que les frappes aériennes se poursuivent et il est également vrai que des civils continuent d'être massacrés à cause de ces frappes aériennes. Ces affirmations interviennent au 32e jour de la guerre génocidaire menée par le régime israélien contre la bande de Gaza. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a notifié aux chefs des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, de la République islamique d'Iran, l'orientation du volet maritime des projets de développement national. À cet effet, le pouvoir exécutif est tenu à soumettre avec l'aide du Conseil de discernement pour le bien de l'ordre islamique et la mobilisation des institutions responsables, un plan global pour la mise en œuvre de ces politiques qui comprennent l'élaboration des projets de loi et l'approbation des règlements exécutifs nécessaires en un délai de 6 mois. Les mers et les océans sont des dons divins qui possède de riches réserves et ressources pour le développement de la science et de la technologie, répondant aux besoins vitaux, créant des emplois et de la richesse, renforçant l'autorité du pays et constituant une plateforme propice au développement civilisationnel, indique le texte promulgué par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. La République islamique d'Iran, avec son positionnement géographique privilégié, étant située entre deux mers, possède des milliers de kilomètres de littoral et des îles, ainsi que des capacités abondantes sur mer. Il est donc nécessaire d'avoir une présence efficace sur la côte, au large, en mer et dans l'océan et de les utiliser comme force motrice pour atteindre une position régionale et mondiale digne de l'exploitation de la mer, explique le texte qui détermine les politiques générales du volet maritime des projets de développement national comme suit. 1. Politique intégrée du domaine maritime, la répartition des projets nationaux et la gestion efficace de la mer afin d'utiliser au maximum les capacités pour renforcer la position du pays sur la scène internationale et régionale. 2. Développement des activités économiques dans le domaine maritime, en passant par les côtes, les îles et le littoral, de sorte qu'au cours d'une période de 10 ans, le taux de croissance économique y soit au moins 2 fois supérieur à celui du reste du pays. 3. Facilitation et développement des investissements et des partenariats nationaux et étrangers en créant des infrastructures nécessaires. 4. Élaboration d'un plan global de développement des activités maritimes avec un zonage précis de la mer, du littoral et de l'arrière-plage, détermination géographique du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, notamment dans les côtes et îles du Sud, en particulier les côtes de Makran, dans un délai maximum d'un an après la notification de l'ordre du leader de la révolution islamique. 5. Exploitation maximale et optimale des capacités, ressources et réserves de l'écosystème marin, en empêchant la destruction du milieu marin, notamment par d'autres pays. 6. Fourniture et promotion du capital humain, gestion efficace et création d'un soutien scientifique, éducatif et de recherche pour le développement de l'écosystème et de la technologie maritime. 7. Développement de la coopération économique et commerciale et des investissements dans des projets d'infrastructures, de production et de services à grande échelle et basés sur la connaissance avec les pays voisins et d'autres pays afin de tirer parti des capacités maritimes et d'une présence efficace sur les routes internationales et atteindre la position de pôle régional. 8. Augmentation de la part du pays dans le transport et le transit maritime, en créant et en renforçant le réseau de transport hybride. 9. Soutien aux investisseurs et aux entreprises locales dans des projets de développement dans divers domaines, notamment la pêche, l'agriculture, l'industrie et le tourisme.
Bonjour à tous. Notre débat du jour considère la loi que veut mettre en place la France concernant associer l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est notre sujet du débat. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format débat, tout d'abord un reportage qui fera le point sur la situation, sur ce projet de loi, éventuellement également les réactions. Tout de suite donc le reportage et par la suite la venue de nos invités. A tout de suite.
Un groupe de 16 sénateurs français a présenté un projet de loi visant à criminaliser la critique du sionisme. 16 sénateurs français, affiliés pour la plupart au groupe politique Les Républicains, ont déposé sous l'égide de Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, une proposition de loi visant à pénaliser l'antisionisme. La proposition de loi qui a été soumise au Sénat pour une première lecture prévoit notamment de punir d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui auront contesté l'existence de l'État d'Israël, de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'injure commise envers l'État d'Israël, puis 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende contre ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué la haine ou la violence à l'égard de l'État d'Israël. Mais ce n'est ni la première ni la seule proposition du sénateur Le Rudulier. Ce sénateur demande également la dissolution du mouvement France Insoumise ainsi que celle des partis ayant fait l'apologie du Hamas. Dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, le sénateur des Bouches-du-Rhône dénonce l'existence d'une 5e colonne du terrorisme palestinien en France et réclame la dissolution non seulement de la France Insoumise, mais aussi du nouveau parti anticapitaliste NPA, de la Jeune Garde, des indigènes de la République et des révolutions permanentes, tous accusés de faire l'apologie du terrorisme. Mais il est intéressant à savoir que les juifs antisionistes dénoncent ce projet qui amalgame antisionisme et antisémitisme. Le président d'honneur de l'Union juive française pour la paix, UGFP, Richard Wagman, avait dénoncé un amalgame volontaire entre antisémitisme et antisionisme en France. Wagman rappelait que l'antisémitisme est une forme de discrimination raciale et de haine, tandis que le sionisme et l'antisionisme sont des idées politiques. Ce groupuscule ne représente en rien la moindre portion de la communauté juive de France, a-t-il souligné. Le mois dernier, la France a interdit les manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Il a ajouté que toute organisation de telles manifestations entraînerait des arrestations. La France est depuis longtemps derrière le projet colonial d'Israël en Palestine, fournissant des armes et une couverture diplomatique à sa campagne de bombardement génocidaire en cours à Gaza.
Alors nous revoilà donc sur le plateau. D'abord, on va faire venir nos invités que vous connaissez peut-être, si vous nous avez déjà suivis. Alors il y a M. Jean-Maxime Corneille, analyste politique. Bonjour M. Corneille, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour Téhéran, merci pour votre invitation.
Et également, nous avons Bernard Cornu, également, et souvent également sur les situations de manifestation pour la Palestine, pour les droits d'expression. Monsieur Cornu, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Oui, bonjour.
Alors, on va commencer dans ce cas-là avec Monsieur Corneille. Alors, Monsieur Corneille, plusieurs fois sur les plateaux, vous avez indiqué qu'il y a un jeu qui se fait par le biais du sionisme, qui s'en prend à la France, les intérêts français en Afrique. Souvent, vous en avez parlé, du fait que finalement, il y a un jeu qui fait que la France perd du terrain en Afrique, mais ça serait dû donc à l'influence négative de l'entité sioniste sur ses politiques. Nous savons, parce qu'il y a eu énormément d'informations qui ont circulé ces derniers temps à cause de Gaza, que pratiquement une soixantaine de parlementaires français sont et français et israéliens. Donc on peut comprendre qu'il y a une véritable influence dans la loi par, on va dire, l'influence sioniste dans le Parlement français, là où sont donc prononcées les lois, en tout cas décidées, écrites en première instance, dans tous les cas de figure. Alors on est loin de 1905. On oublie souvent, quand on fait un parallèle de sionisme et juif avec l'islamophobie, l'islam, le hijab, la tenue religieuse, donc la barbe et la robe longue pour les hommes. Mais on oublie aussi les chrétiens qui ont toujours eu l'obligation de se montrer discrets dans leur tenue, dans les symboles de leur religion. Et pourtant, on a vu dans ce Parlement français, la kippa, on a vu maintenant, aujourd'hui, cette loi, cette envie de faire une loi qui mixe l'antisionisme à l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien, plusieurs. Le sujet est vaste et il convient de le simplifier de la bonne façon. C'est-à-dire que tout ça, c'est le résultat d'une longue opération. En réalité, il y a un feuilletage de schizophrénie au sein de l'histoire de France qui empêche aujourd'hui même les Français de comprendre à quel point ils subissent un terrorisme intellectuel depuis la Révolution globalement. L'élément à avoir en arrière-plan, j'en ai déjà parlé sur votre antenne, c'est globalement à partir du XVIe siècle. L'union entre l'Empire britannique d'une part et les réseaux juifs internationalistes commerciaux d'autre part, provenant notamment de la péninsule ibérique après leur expulsion par Isabelle la Catholique en 1492. À partir de là, l'origine de la surpuissance de l'Empire britannique, puis plus tard de ce que j'appelle aujourd'hui, de ce qui est devenu aujourd'hui le mondialisme anglo-américano-israélien, la logique qui a été derrière, c'est globalement un oubli de ce crime spirituel du judaïsme qui a choisi la matière, de ce clergé juif qui a choisi un certain matérialisme par opposition à son rôle théorique en tant que clergé, c'est-à-dire le salut des âmes. Les prophètes de l'Antiquité, comme plus tard Jésus, comme plus tard Mohammed, faisaient tous le même procès, c'est-à-dire de dignitaires juifs qui confondaient les temples et les banques et qui, par extension, bien longtemps après, ont donné une masse critique au capitalisme internationaliste, et c'est tout à fait avoué par des grands messieurs du judaïsme ou des grands historiens juifs, que ce soit Heinrich Goetz, que ce soit Jacques Attali, que ce soit Cecil Rhodes sur les Maranes, l'histoire des Maranes. Donc vous avez une cohérence historique qui fait que tous les opérateurs indépendants, notamment l'Afrique, la France en Afrique, comme nous en parlions, ont vocation à être ciblés. Ça, c'est le but, la monopolisation globalement de tout ce qui est matière première stratégique. Par extension, pour empêcher toute critique à cette logique, il y a un terrorisme intellectuel qui s'est déployé au fur et à mesure, et dont Israël n'est même pas forcément l'acteur. Israël serait bien plus la victime potentielle d'un véritable pouvoir juif sur l'Occident, mais qui existe au moins en tant que facteur et en tant que vecteur, c'est absolument indubitable, mais d'une façon qui pousse Israël à se faire détester, pas dans les intérêts d'Israël, et que les serviteurs israéliens, les serviteurs de l'État israélien comprennent, mais tout en comprenant bien que les éléments perturbateurs qui poussent Israël à se faire détester ou à des choix aventuristes, ou bien à pousser l'Occident à soutenir un aventurisme ou un militarisme excessif en Israël, qui est indéfendable d'un point de vue de l'humanisme occidental revendiqué, ne sont pas forcément en Israël, ce sont souvent des membres beaucoup plus subversifs de la communauté juive occidentale, notamment aux États-Unis et notamment en France, qui sont d'ailleurs souvent d'anciens juifs russo-polonais, mais qui se caractérisent par une sorte de fanatisme diffus et discret, mais qui est dangereux pour Israël et qui n'est même pas rationnel. Donc en fait, c'est une schizophrénie dans l'histoire de France qu'il s'agit de comprendre, notamment depuis la Révolution. Et il y en a des exemples qui seraient très peu connus en réalité, sur lesquels je ne vais pas les développer là tout de suite. Mais de fait, nous voyons ici l'aboutissement d'une opération psychologique visant à interdire toute critique, évidemment, tant de la communauté juive en France que d'Israël. Mais ce n'est même pas vraiment dans les intérêts israéliens, parce que ce faisant, nous encourageons Israël à prendre des risques pour sa survie à long terme. C'est-à-dire que la diplomatie intelligente française consisterait justement à une politique non pas tant arabisante, mais plus équilibrée au sujet du Moyen-Orient, de façon à ne pas quelque part encourager Israël à une fuite en avant militariste, telle qu'elle a été globalement encouragée notamment depuis la guerre du Liban. C'était d'ailleurs le but de De Gaulle à partir de 67, de ne pas encourager Israël à cet aventurisme, parce qu'à terme, la situation serait intenable pour Israël par rapport à ses voisins. Mais je dis que les représentants d'une certaine partie de la communauté juive, caractérisée par un fanatisme diffus, sont bien au chaud en France ou aux États-Unis et poussent Israël à se faire détester en interdisant sa critique humaniste raisonnée depuis la France. Et ce n'est pas sain.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Parlement pourrait en arriver là? Est-ce que c'est seulement, finalement, 16 sénateurs? Ce n'est pas la majorité, on n'en est pas là. On sait aussi que, du fait des différentes manifestations, on a bien vu la voix française s'élever et aller contre l'interdiction des manifestations pour antisémitisme. Les manifestations futures ont bien montré qu'il n'y a pas d'antisémitisme, que c'était bien en manifestation pour le soutien de la population à Gaza. Donc, ça a donné tort au gouvernement français actuel. Monsieur Corneille, après, nous passerons à notre deuxième invité pour finir votre lancée dans votre réflexion. Est-ce que vous pensez que le Parlement actuel pourrait en arriver à prendre cette décision de dire on fait une confusion entre antisémitisme et antisionisme?
Je dis que nous pouvons arriver à une situation à l'américaine dans laquelle, on l'avait vu avec le sénateur Chuck Schumer, qui avait développé une savante subversion sous-étudiée face à Trump durant les années de la présidence Trump. Nous voyons avec des gens comme Meir Habib, qui sont réellement de réels commissaires politiques régnant sur le Parlement et les médias français, nous pouvons tout à fait avoir une situation à l'américaine dans laquelle, en effet, nous arriverons à cette équivalence ubuesque et quelque part à faire passer cette voie. Néanmoins, ce sera quand même une bonne chose pour voir toutes les contradictions de la République dite française depuis plus de 200 ans. Et donc, je dis que cette situation peut arriver. Je dis aussi qu'il y a quelque chose qui, je pense, depuis l'Iran est sous-évalué. C'est la facilité qu'ont les Français à endosser, je l'ai déjà dit sur votre antenne, la rhétorique israélienne, parce que depuis des années, l'opinion publique française a été préparée psychologiquement, notamment par l'immigration et par l'encouragement de certaines exactions anti-françaises d'une certaine immigration, mais dont on ne dit jamais qu'elle a été façonnée à 90% par des agents d'influence, sinon juifs, du moins pro-israéliens, du moins entre les deux, ou crypto-pro-israéliens, ce qui fait que les Français partent avec un temps de retard en tant qu'opinion publique pour comprendre vraiment le problème. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas impossible que cette loi finisse par passer. Mais les débats que ça va susciter, en tout cas, montreront bien des contradictions qui seront de toute façon utiles d'un point de vue de l'établissement de la vérité aujourd'hui, je pense.
Merci, M. Cornet. Alors, M. Cornu, ravi de vous revoir. Ravi de vous avoir également en caméra. Alors, M. Cornu, ça fait longtemps que vous manifestez pour la cause palestinienne. On sait que la France a toujours soutenu, en tout cas avant ce gouvernement, a toujours soutenu la cause palestinienne. C'est peut-être le premier gouvernement à en arriver là, c'est-à-dire à interdire de manifester, à interdire de s'exprimer pour la cause palestinienne, à interdire de condamner les actes criminels de l'entité sioniste. Au vu de cette loi, qu'est-ce que vous en pensez après toutes ces années pour vous de manifestations et dans votre position concernant la Palestine?
Au vu de cette proposition de loi, hein, parce que même je doute qu'elle puisse passer, notamment à l'Assemblée, peut-être au Sénat, où la droite est assez majoritaire, mais à l'Assemblée, je ne pense pas qu'elle puisse rallier, tellement elle est excessive. Et d'ailleurs, moi-même, je devrais faire attention, puisque dans les manifestations, j'ai souvent porté des pancartes où il était dit, comme en Angleterre d'ailleurs, Israël, État terroriste, devra payer des réparations pour toutes les exactions, pour tous les criminels et destruction de maisons. Donc, et en Angleterre, où j'étais dans la manifestation du samedi 14 octobre, il y avait une pancarte très claire où il y avait marqué 75 ans, Israël, État terroriste. Et en Turquie, il y a quelques années, en 2006 notamment, j'étais d'ailleurs à Istanbul, au moment d'une attaque très forte, très violente de l'État d'Israël sur le Liban, avec beaucoup de destruction de ponts, de routes, etc., et aussi beaucoup de morts, un journal turc a publié en première page « Israël terroriste Devlet », c'est-à-dire « Israël est un État terroriste ». Je ne pense pas que cette loi passera parce que cette proposition de loi passera parce que elle est très excessive, et en France, il y a quand même une liberté d'expression. C'est vrai que l'antisémitisme est interdit, mais pas l'antisionisme jusqu'à présent, et que les cours européennes ont toujours décidé ou confirmé que tant qu'on pouvait critiquer le sionisme et on pouvait critiquer l'État d'Israël, tant qu'on faisait des motivations pour cela politiques. Et donc nos motivations pour critiquer l'État israélien son politique, c'est à cause de, ses, de son occupation depuis 1967 de territoire palestinien, et plus aussi si on veut contester même ce qui s'est passé en 1948. Pour l'instant, moi j'en reste à le désir des Palestiniens de retrouver, la plupart des Palestiniens, puisqu'ils ont décidé ainsi devant la Ligue arabe, de revenir sur les frontières de 67, ce qu'on appelle en gros la ligne verte, et aussi avec en plus une bande de terrain continue entre Gaza et la Cisjordanie, comme l'a souhaité l'Union européenne même, enfin la communauté européenne, dans une déclaration ancienne, pour que cet État soit viable. Donc je voudrais revenir un peu au court terme. Mon collègue M. Corneille a évoqué, disons, des motivations globales, une historicité de cette problématique. Je voudrais revenir un peu au court terme. J'ai constaté qu'un des proposants au Sénat de cette proposition de loi, à côté de M. Le Rudilier, qui est un homme qui est très ambitieux, qui essaye partout de se faire connaître comme doctorant, alors qu'on sait que sa thèse a été résultée en partie d'un plagiat. Mais l'autre personne très importante, c'est M. Roger Karoutchi, qui est un sénateur, lui, qui a été sénateur depuis longtemps, qui a un rôle important, qui parle souvent dans les médias. Il est lui-même agrégé d'histoire, donc c'est un homme sérieux. Mais il est d'origine d'une famille juive d'Essaouira, où il y a aussi eu un maire d'Essaouira qui était juif, qui a eu beaucoup d'influence, et dont la fille, d'ailleurs, est la directrice générale de l'UNESCO actuellement. Donc ce sont des gens qui sont... connaissent bien le monde arabe parce qu'ils y sont nés, qui sont juifs et qui sont tentés quand même de promouvoir un soutien inconditionnel de l'État israélien, et donc sont à l'initiative de telles propositions de loi ou de règlements pour essayer d'empêcher toute critique raisonnable, politique de l'État israélien et de toutes ses exactions. Donc je pense qu'à court terme, ça va être monsieur, parce que d'ailleurs M. Karoutchi, sénateur, avait interpellé notre première ministre Mme Borne au sujet des déclarations de Mme Colonna ou de Mme Borne, parce qu'il trouvait qu'elle n'était pas assez ne condamnait pas assez fort comme un génocide l'attaque du 7 octobre. Donc entre M. Karoutchi et M. Roudilier, ils sont dans le même. Il y a d'autres personnes aussi qui sont associées à cette proposition de loi, mais je pense que l'initiative réelle en vient de M. Karoutchi, car il est habitué à ces critiques très fortes des positions anti-sionistes, anti-israéliennes, qui sont en France très courantes dans les partis de gauche et depuis longtemps.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Cornet, alors on voit bien que malgré les interdictions de manifestation, les Français ont insisté, ils ont gagné gain de cause, puisque des autorisations de manifestation ont finalement été données. Et aux grandes dames, j'ai envie de dire certainement, de ce gouvernement, ça s'est relativement bien passé. Il y a eu très peu d'accrochages. Pourtant, des gens se sont fait arrêter, ont eu des amendes très importantes parfois. Alors, on voit bien une différence entre l'expression du gouvernement et l'expression finalement du peuple. On l'avait déjà ressenti avec les gilets jaunes, on l'avait ressenti avec toutes ces manifestations, on l'a ressenti au niveau aussi des élections, puisque la voix participative du peuple dans les élections, les différentes élections françaises qui sont censées être des suffrages qui représentent la démocratie en France, elle est de plus en plus faible chaque année, enfin chaque fois qu'il y a de nouveaux mandats. Alors, et qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement continue à prendre des décisions que la France n'est pas d'accord, c'est-à-dire que le peuple français s'est déjà exprimé sur ces points-là, puisque par les manifestations, par des articles dans les journaux, parce que certains journalistes indépendants se sont déjà exprimés sur le conflit en Libye, le conflit en Irak, en Syrie, l'influence européenne dans ces conflits, et le fait que finalement les premiers à en subir les conséquences sont les musulmans, qu'ils vivent en Europe ou qu'ils vivent au Moyen-Orient. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette différence ne va pas encore plus se faire? On ne va pas revenir à une envie de révolution en France, à force de tirer le peuple vers une direction qui ne se voit pas avec ce gouvernement?
Alors attention au maniement de ce genre de mots en France, car la situation n'est pas du tout celle-là. La réalité, en effet, c'est que nous avons eu une manifestation qui s'est bien passée, sauf que d'un point de vue extérieur et d'un point de vue français, dans cette manifestation, vous aviez en effet des Blancs, mais vous aviez une grande majorité d'immigrés. En tout cas, sur les images qui ont été montrées aux médias. À Berlin, vous avez eu un cas beaucoup plus caricatural. Vous avez eu une macro-manifestation dont on a clairement vu qu'elle était animée par énormément de musulmans et de Turcs. Ça fait des années que, globalement, c'est très ironique, parce qu'en réalité, Israël, j'avais déjà dit sur votre antenne avec les mots de Martin Schulz qui disait que l'Allemagne aujourd'hui n'avait qu'une seule raison d'exister, c'est d'assurer la sécurité et le bien-être d'Israël, point barre. Ça, c'est un propos violemment anti-européen, absolument fanatique, anti-allemand. Et des propos comme ça, globalement, c'est la façon de penser d'un certain nombre de juifs fanatiques qui sont bien plus les moteurs idéologiques de la communauté juive que le juif du quotidien. Les juifs du quotidien ne sont pas aussi activistes et ne sont bien souvent pas aussi fanatiques. Sauf que c'est en leur nom que beaucoup de choses sont dites de cette nature. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples dans mon environnement ou autre de juifs lucides contre ce genre de choses. Et pourtant, Israël, globalement, depuis 2000-2500 ans, est emmené par ces éléments les plus fanatiques. C'est quelque chose dont, si Israël continue, nous allons voir la fin de notre vivant. Parce que ce système-là ne tient que par la répétition des mêmes mensonges qu'à notre époque, nous pouvons faire voler en éclats.
Excusez-moi, monsieur
C'est.
Corneille, excusez-moi, je veux rajouter quelque chose. Alors, il est vrai, ce que vous dites, c'est que si on regarde les médias, si on voit l'expression des médias, comment les gens s'expriment, il y a, du fait de la manipulation dont vous avez souvent parlé ici à Presse TV par rapport à la vérité des choses qui ont été faites ou qui sont faites ou qui sont exprimées, il y a une modification de la vérité. Donc, c'est ce que les Français finalement entendent. Mais du fait des différents incidents qu'on connaît en France, j'ai envie de parler du corona, j'ai envie de parler du vaccin, j'ai envie de parler également de la vie de plus en plus chère, ou même des hommes comme Monsieur Leclerc a indiqué qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il y ait une inflation des produits en France. Donc les Français se sont fait alerter par des gens qui ont été les alerteurs de la situation. Et donc il y a de plus en plus, surtout ces 2 dernières années, du fait de cette période corona et de cette politique de la vaccination obligatoire, où des Français sont partis, on ne parle pas seulement de la France, on parle de la Belgique, de la Suisse, des pays francophones, où on les a vus aller dans d'autres médias. J'ai envie de penser à Telegram, j'ai envie de penser à Twitter, où ils se sont détachés des médias français. Donc, bien que je comprenne ce que vous dites par rapport aux manifestations pro-Gaza qui ont eu lieu, ce n'est pas forcément seulement la situation gazaouie qu'on a envie de parler. C'est de la différenciation entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, des décisions 49.3, des décisions également islamophobes, parce que finalement, à chaque fois, on casse du sucre sur des Français, parce qu'ils sont Français parfois sur 2 ou 3 générations, puisque ce sont leurs arrière-grands-parents parfois qui ont immigré, et du fait qu'il y a eu une politique que vous avez vous-même exprimée ici sur les plateaux, du fait que la France avait une politique avec l'Afrique, une politique d'association,
Bien
mais que
sûr.
maintenant, il y a cette fissure qui se fait, que cette politique d'association veut être oubliée pour finalement faire une politique de rejet. Mais ces Français-là sont toujours là.
Bien sûr, alors 2 choses différentes. En fait, la communauté juive française, sous impulsion israélienne et en fait sous impulsion anglo-américaine, est en train d'user jusqu'à la corde son dernier bastion qui permettait de soumettre les Français, à savoir l'argument, le procès en antisémitisme. Et nous avions vu des opérations durant les Gilets jaunes grossières d'agitation propagandaire, notamment impliquant Alain Finkielkraut, qui tout d'un coup se retrouvait, on ne savait pas pourquoi, il avait fait le coup pour Nuit debout, puis il a refait le coup pour les Gilets jaunes, il se retrouvait là, on ne savait pas pourquoi, et on avait des propagandistes pseudo-musulmans ridicules qui disaient « Ouais, t'es un haineux, t'es un sale sioniste, etc. » Ça, ce sont des opérations d'agitation propagandaire pour bien faire comprendre aux Français que parmi les gilets jaunes, il y a des méchants pseudo-musulmans apprentis djihadistes, et pareil du côté des Palestiniens. Sauf que, en effet, on avait vu une sécession du peuple par rapport à des élites illégitimes, des élites parasites, notamment juives en France. Depuis la Révolution, il y a vraiment ce qu'on appelait à l'époque le problème juif, en réalité. C'est un facteur lourd dans la République française. Et
Monsieur
aujourd'hui,
Corneille, je vais vous demander
les Juifs sont en
de
train,
devoir
laissez-moi,
conclure
s'il
en
vous plaît.
quelques mots. Malheureusement, le débat se
Oui, tout
finit.
à fait, je termine
Conclure.
juste ce point-là.
Merci.
Les Juifs sont en train d'user jusqu'à la corde leur dernier bastion de pouvoir en France, en effet, et ils le font très maladroitement.
Merci,
C'est
Monsieur
un juif
Corneille. Monsieur
propagandiste.
Corneille, je vous remercie également pour votre expertise d'aujourd'hui. Donc, je répète, c'était concernant donc cette envie de légiférer une loi qui mixe l'antisémitisme et l'anti-sionisme. Monsieur Corneille, de nouveau, merci également pour votre participation. C'est la fin de notre débat. Je vous dis, moi, à bientôt pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader de la révolution islamique a notifié aux chefs des trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires l'orientation du volet maritime des projets de développement national. À cet effet, le pouvoir exécutif est tenu à soumettre, avec l'aide du Conseil de discernement pour le bien de l'ordre islamique et la mobilisation des institutions responsables, un plan global pour la mise en œuvre de ces politiques qui comprennent l'élaboration de projets de loi et l'approbation des règlements exécutifs nécessaires en un délai de 6 mois. Les mers et les océans sont des dons divins qui possèdent de riches réserves et ressources pour le développement de la science et de la technologie, répondant aux besoins vitaux, créant des emplois et de la richesse, renforçant l'autorité du pays et constituant une plateforme propice au développement civilisationnel, indique le texte promulgué par le leader de la révolution islamique. L'Iran, avec son positionnement géographique privilégié, étant situé entre deux mers, possède des milliers de kilomètres de littoral et des îles, ainsi que des capacités abondantes sur terre. Il est donc nécessaire d'avoir une présence efficace sur la côte, au large, en mer et dans l'océan, et de les utiliser comme force motrice pour atteindre une position régionale et mondiale digne de l'exploitation de la mer, explique le texte qui détermine les politiques généraux du volet maritime des projets de développement national. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que les États-Unis sont directement impliqués dans la guerre menée par Israël contre Gaza, soulignant que le régime de Tel Aviv est le véritable perdant des actes d'agression et de génocide dans la bande de Gaza assiégée. L'ayatollah Khamenei s'est exprimé sur le sujet lors d'une réunion avec le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani le lundi 6 novembre à Téhéran. Le président iranien, Ebrahim Raisi, était également présent à la réunion. Le leader s'est dit convaincu que les Américains sont définitivement complices des crimes du régime sioniste à Gaza. Depuis les premiers jours des attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza, toutes les preuves et indications montrent l'implication directe des Américains dans la gestion de la guerre, a-t-il déclaré. À mesure que la guerre continue, a ajouté l'ayatollah Khamenei, les raisons qui sous-tendent le rôle direct des États-Unis dans la gestion des crimes israéliens deviendront plus explicites. Le leader a déclaré que le régime israélien ne peut pas poursuivre la guerre si les États-Unis ne lui fournissent pas une aide militaire et politique. Malgré le massacre des Palestiniens à Gaza, le régime sioniste est le principal perdant de la guerre en cours, car il n'a pas réussi à restaurer sa réputation perdue et ne pourra pas la retrouver à l'avenir, a-t-il encore souligné. L'ayatollah Khamenei a également salué la position bonne et forte du gouvernement irakien en faveur du peuple palestinien à Gaza et a exhorté le monde musulman à exercer une pression politique sur les États-Unis et Israël pour qu'ils mettent fin au massacre de civils dans l'enclave assiégée de Gaza. En tant que pays important dans la région, l'Irak peut jouer un rôle particulier à cet égard et former un front nouveau dans le monde arabe et musulman, a-t-il déclaré. Selon l'ayatollah Khamenei, l'Iran et l'Irak peuvent jouer un rôle efficace dans ce domaine en améliorant la coopération bilatérale. Ailleurs dans ses propos, le leader de la révolution islamique a salué les progrès réalisés dans la coopération économique et sécuritaire entre Téhéran et Bagdad et a conseillé aux deux parties de poursuivre les progrès au même rythme. le ministère de la Santé de Gaza a accusé lundi soir le régime sioniste d'avoir ciblé délibérément les infrastructures énergétiques et les hôpitaux de la zone. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé lundi soir que le régime sioniste avait délibérément ciblé les réservoirs d'eau et les installations d'énergie solaire de l'hôpital Al-Ratisi, exposant ainsi au danger de la mort et de la soif la vie d'environ 7000 personnes, dont des patients, des membres du personnel médical et des personnes déplacées à l'intérieur. Il n'y a pas de couloir sûr dans la bande de Gaza. Prétendre qu'il y en a est un mensonge que l'occupation utilise pour attaquer notre peuple, a-t-il dit, indiquant qu'il y a des centaines de victimes tombées après avoir été forcées par l'occupation à fuir du nord au sud de Gaza et que les ambulances ne peuvent pas les récupérer jusqu'à présent. Le système de santé effondré est devenu totalement incapable de sauver la vie des blessés et des malades en raison du ciblage direct des hôpitaux et des ambulances et à cause de l'impossibilité d'acheminer les fournitures médicales et le carburant, en particulier dans la région de Gaza et le nord de la bande de Gaza. La directrice exécutive de l'UNICEF a appelé lundi à l'arrêt immédiat des bombardements de Gaza par les sionistes dans un message sur les réseaux sociaux X. Israël utilise des armes prohibées contre la population civile de Gaza. Les conditions étranges et sans précédent des martyrs et des blessés à Gaza montrent que le régime israélien a utilisé des produits chimiques américains spécieux dans ses attaques. La chaîne Al Jazeera a enquêté sur les blessures et brûlures causées par l'utilisation du phosphore blanc par le régime israélien et a publié un rapport à ce sujet. Le phosphore blanc provoque de graves brûlures, souvent jusqu'au. Ce problème est souligné dans les rapports d'examens médicaux à Gaza. Dans ce contexte, Youssef Abu Al-Rish, vice-ministre de la Santé de la bande de Gaza, a déclaré aux médias le 24 octobre « Nous avons des victimes avec plus de 80% de brûlures », ce qui indique que l'ennemi utilise de nouvelles armes. Le directeur de l'hôpital indonésien a également souligné ce point après les frappes aériennes sur le camp de Jabalia et a déclaré que la plupart des martyrs et des blessés souffraient de brûlures très graves, ce qui indique l'utilisation de nouvelles armes. La résistance islamique irakienne a annoncé dans un communiqué avoir ciblé à 6 reprises, depuis lundi matin, des bases militaires américaines en Syrie et en Irak. 3 attaques ont été menées contre la base d'Ayn al-Assad dans l'ouest de l'Irak et une attaque contre chacune des bases américaines près d'Erbil dans le nord de l'Irak, de Tal Baydar dans le nord de la Syrie et d'Al-Tanf dans le sud du pays, précise le communiqué de la résistance islamique d'Irak. Ce groupe de résistance a souligné que ces attaques avaient été menées avec des armes appropriées et touchaient leurs cibles. La chaîne d'information Al-Mayadin a également rapporté lundi qu'un drone suicide avait visé une base de l'occupation américaine dans le nord-est de la Syrie. La base est située à proximité du village de Rasrak, au nord de Hasaki, dans le nord de la Syrie. Suite à l'intensification de la guerre dans les territoires palestiniens occupés, des bases américaines dans différentes régions d'Irak et de Syrie ont été attaquées ces derniers jours, et des dizaines de soldats américains ont été blessés lors de ces attaques. Les attaques de la résistance ont contraint les forces d'occupation américaines à évacuer, rien qu'en une semaine, les 2/3 de leur personnel militaire et civil en Irak. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.